il est 11h sur Radio Campus Tours. Chers auditeurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne. Voilà, nous sommes très exactement le 27/04/2022. Et cette belle émission va commencer par des chroniques proposées par les étudiants du département Histoire et Archéologie de l'Université de Tours, des étudiants en licence qui vont vous parler des travaux qu'ils ont pu mener durant cette année. Et après ces chroniques, nous aurons peut-être le plaisir d'avoir un invité surprise dans cette émission. Voilà, si la technique se met de notre côté, voilà, puisque c'est un invité à distance. Je n'en dis pas plus pour le moment. Je vous laisse écouter les chroniques des étudiants du département Histoire et Archéologie, ne l'oublions pas, de l'Université de Tours. Et on se retrouve tout de suite après dans La Méridienne sur Radio Campus Tours.
Connaissez-vous l'origine de la Marseillaise, de l'expression « passer l'arme à gauche » ? Vous avez soif de quelques citations d'histoire ? Alors bienvenue sur le compte d'Abeille Raconte, on vous raconte tout. Avec des camarades de licence, nous formons un groupe de 7 et nous avons décidé de créer un compte Instagram dans le cadre du projet tutoré de la licence d'histoire. Notre compte regroupe diverses informations. On peut l'appeler comme un groupe de vulgarisation d'histoire. Nous avons choisi comme symbole l'abeille. L'abeille a beaucoup de symbolisme. Elle peut représenter plusieurs choses selon les cultures. On peut dire que ça représente, par exemple, dans le christianisme, la lumière, la loyauté ou encore la diligence. Mais ça représente également l'abondance et la force. Nous avons également choisi une petite citation pour nous présenter, qui est celle-ci. L'histoire, c'est comme une ruche. Chaque petite abeille y contribue. Nous, nous récoltons le miel pour mieux vous régaler. Ce compte nous permet de partager nos connaissances et notre passion pour l'histoire. Nous publions 3 anecdotes par semaine. Notre système est simple. Une semaine, une période historique. Et nous avons une couleur de référence pour chaque période. Nous avons le bleu pour la contemporaine, le rouge pour l'ancienne, le rose pour l'histoire moderne et enfin le vert pour l'histoire médiévale. Nous cherchons nos sources dans les livres, à la bibliothèque ou encore sur Internet. Nous tenons beaucoup à l'exactitude historique, comme on dit chez nous. Mais nous publions également des posts culturels. On vous conseille des livres, des séries ou encore des podcasts pour aimer l'histoire tout en s'amusant. Nous vous proposons également des stories permanentes avec différents thèmes. Nous avons par exemple des stories pour les méthodologies historiques, comment faire un commentaire de texte par exemple. Et nous avons également des conseils pour les étudiants, comment gérer son budget, etc. Une de nos nouveautés, c'est la story sur les éphémérides. Nous vous faisons des petites anecdotes sur les fêtes en fonction du calendrier. Au début, c'était un peu difficile de savoir comment se faire connaître, mais avec un peu de réflexion, nous avons trouvé quelques techniques pour vous satisfaire et nous satisfaire aussi. Nous avons par exemple créé des concours sur notre compte, à l'occasion d'Halloween et de Noël. Halloween, on a fait gagner des bonbons à quelqu'un qui a été tiré au sort parmi les gens dans les commentaires. Le gagnant était très content et nous étions aussi très contents d'avoir fait cette expérience avec vous. Nous avons donc reproduit l'expérience à Noël en faisant gagner un paquet de chocolat. C'était vraiment très amusant d'organiser tout ça et on s'est beaucoup amusé avec le groupe. Nous avons également pris du temps pour réaliser des affiches que nous avons affichées un peu partout dans notre fac et ça nous a permis de gagner quelques abonnés et de nous rendre un peu plus visibles. Alors pourquoi les réseaux sociaux ? Après tout, dans le monde où tout est numérique, on s'est dit pourquoi pas se lancer nous aussi ? En effet, on peut toucher un large public en utilisant les réseaux sociaux. Et notre but, c'est dans un temps où le désintérêt pour l'histoire grandit, on veut essayer de ramener l'histoire au centre de l'attention des gens, et surtout des jeunes qui ont tendance à beaucoup le délaisser, et montrer que l'histoire, ce n'est pas juste un cours barbant avec un professeur un petit peu ennuyeux, et qu'on peut totalement trouver une bonne pédagogie d'apprentissage, et passer du bon temps et se divertir. Que vous soyez petits et grands, vous pouvez retrouver votre bonheur sur notre compte puisque nos anecdotes sont vraiment variées. On passe de la médecine à la danse, à la politique, etc. Nous avons également des citations, mais aussi des faits, des images, des photos, des films. Nous avons également innové et nous sommes un peu sortis de notre zone de confort en organisant une interview. Nous avons interviewé une professeure d'histoire qui a répondu à nos questions et c'était vraiment une très bonne expérience qui nous a un peu fermé au montage, etc. Et ça montre qu'on peut totalement diversifier son contenu et créer un contenu vraiment pédagogique, mais aussi beaucoup récréatif. Ce qui fait notre force, c'est notre diversité. En effet, nous sommes 7 et chacun peut ressortir sa personnalité et sa créativité à partir des posts qu'il fait. Par exemple, ce ne sera pas le même poste entre chaque personne. Et c'est ça qui est bien et c'est ça qui est beau, c'est que Vraiment, on se retrouve tous à travers nos postes et ça permet vraiment de développer notre imagination et notre savoir-faire historique. Nous espérons vous retrouver nombreux au sein de notre compte. N'hésitez pas à vous abonner et merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt les abeilles!
Virtuose dès son plus jeune âge, Wolfgang Amadeus Mozart est aujourd'hui sans doute l'un des musiciens classiques les plus connus mondialement. Génie inné ou bien acquis, le jeune autrichien laissa après sa mort un bilan de presque 900 œuvres de tout genre. Le jeune Wolfgang grandit dans un milieu de musiciens, son père est lui-même violoniste et compositeur et sa sœur profite d'une éducation musicale elle aussi. Sachant écrire une partition et jouer du clavecin, à l'âge de 6 ans, Mozart se lance dans ses premières compositions. Il compose notamment 5 menuets, une sonate et un allegro. Face au talent de son fils, Léopold Mozart décide de le faire se représenter devant l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche et sa cour à Vienne. Tous sont impressionnés par le prodige de cet enfant, le nom de Mozart commence à se répandre dans les milieux intellectuels.
Dans cette lancée, la famille Mozart entreprend un tour d'Europe. Mozart a alors 10 ans lorsqu'il quitte Salzbourg avec son père et sa sœur pour se produire devant les plus grandes courses européennes comme celle de Louis XV de France ou de George III d'Angleterre. En 1763, la famille se rend à Munich, Augsbourg, Mayence, Francfort, Cologne, Aix-la-Chapelle et Bruxelles. Arrivé en France, à Paris, Mozart fait la rencontre de grands noms de la musique comme Chopin. En 1764, les Mozart remontent vers le nord en passant par Calais, ils rejoignent l'Angleterre en passant par Douvres, puis arrivent à Londres. Mozart y rencontre le fils de Jean-Sébastien Bach. Centre intellectuel très important à l'époque, son séjour là-bas lui permet d'étoffer ses connaissances musicales et techniques. Il apprend notamment, auprès de Johann Christian Bach, à maîtriser le pianoforte. Ce dernier l'initie également au genre de l'opéra, notamment italien, et de la symphonie. Grâce à ces nouvelles connaissances, le talent du jeune Mozart peut de plus en plus s'exprimer à travers des œuvres variées. À 11 ans, Mozart se lance dans la composition de son premier opéra, Apollo Hyacinthus. Entre-temps, Mozart avait composé d'autres œuvres. En 1767, on estime qu'il en avait déjà composé une cinquantaine. Après son séjour en Angleterre, Mozart et sa famille se rendent dans le sud de la France, dans la ville d'Orange notamment. Il rejoint ensuite la capitale néerlandaise, puis la capitale française. La famille rentre enfin à Salzbourg en 1766 après avoir visité plusieurs pays et fait connaître son jeune prodige à quelques grandes courses européennes. Nommé Concertmeister à son retour à Salzbourg, Amadeus reçoit déjà des commandes. Cette tournée de la famille Mozart fait connaître Amadeus dans toute l'Europe occidentale et affirme déjà sa future carrière de musicien, son talent et sa virtuosité ne sont plus à prouver. En 1769, alors âgé de 13 ans, Mozart part avec son père pour un voyage en Italie. Ce voyage doit lui servir d'apprentissage pour perfectionner son art et son talent. Entre ses 11 et 13 ans, Mozart avait écrit 2 autres opéras. Ce voyage en Italie lui permettra de parfaire son écriture d'opéra dont il se servira plus tard dans sa vie. Durant ce voyage, Mozart rencontre de grands musiciens. Le talent et le prodige du jeune musicien ne cessent de s'accroître, en témoigne le Miserere d'Allegri, une œuvre religieuse interdite de reproduction par l'Église de Rome. Après l'avoir entendu une fois, ou deux, selon certaines versions, Mozart aurait retranscrit le morceau sur une partition quelques heures après l'avoir écouté. A l'occasion de son voyage en Italie, Mozart est décoré par le pape Clément XIV. Il est également nommé membre de l'Académie Philharmonique de Bologne, alors qu'il n'est même pas encore âgé de 20 ans. Il revient dans le Saint-Empire à ses 17 ans, soit en 1773. Entre 1773 et 1775, Mozart connaît une période un peu plus calme. Il reçoit une commande de l'électeur de Bavière qui s'avère être un grand succès. Il reçoit une nouvelle commande juste après. À ses 22 ans, Mozart retourne à Paris, soit en 1778. La capitale française était une étape particulièrement importante pour les musiciens de l'époque, y compris Mozart. Paris possédait les plus grandes institutions musicales d'Europe, comme l'Académie royale de musique par exemple. Autre que par ces institutions prestigieuses, Paris servait également de scène pour se faire un nom dans la musique, notamment grâce à l'aristocratie et leurs concerts privés qui apportent la protection et la reconnaissance de ces derniers. Mozart ne resta que 6 mois, sans avoir eu le temps de se faire un véritable nom dans la haute société parisienne. Mozart aurait voulu y rester plus longtemps. Lors de son séjour à Paris, Mozart donne des leçons de musique, activité qu'il détesta exercer. Il en avait néanmoins besoin pour gagner de l'argent. C'est durant son séjour que sa mère décède. Il se décide à rentrer dans la ville familiale, surtout que son père ait des commandes d'œuvres à produire l'attente à Salzbourg. Le bilan de Paris pour Mozart est plutôt hostile, il en ressort assez indifférent de ce séjour. Mozart entre en conflit avec l'évêque Colloredo Mansfeld car le compositeur souhaite pouvoir continuer de créer librement, aux dépens de sa sécurité d'emploi. Au début des années 1780, Mozart se marie à Constance Weber, fille d'une famille de grands musiciens également. Il passe à Vienne, puis par Prague, après avoir hésité à retourner en Angleterre. Son bébé ainsi que son père meurent en peu de temps. Mozart ne retourna jamais à Salzbourg. Malgré la renommée de l'artiste, la famille de Mozart fait face à de grosses difficultés financières. Pour pallier à ses problèmes d'argent, Mozart accepte beaucoup de commandes et passe son temps à composer. Malgré son activité, il est obligé de s'endetter auprès de connaissances. À la suite de complications médicales de sa femme, Mozart part à Berlin pour 2 mois dans l'espoir de rapporter assez pour payer les soins. Ce voyage ne rapporte presque rien à la famille. Mozart est touché par la maladie à son tour, Il meurt le 5 décembre 1791. En raison de sa pauvreté qui l'a accompagné jusqu'à la fin, le compositeur est enterré dans une fosse commune, sans grande cérémonie.
Mozart écrivit tout au long de sa vie de nombreux opéras et composa son premier à l'âge de 11 ans. Plus de 30 ans plus tard, il compose l'un de ses plus célèbres opéras, La Flûte Enchantée ou Die Zauberflöte. Puisqu'il s'agit d'un opéra chanté en allemand et non en latin, nous parlons ici de Singspiel. Le choix de cette langue permit de rendre l'opéra accessible aux classes populaires. Pour beaucoup de musicologues, La Flûte Enchantée est l'aboutissement technique et musical des opéras du compositeur. Rappelons que Mozart l'a composé l'année de sa mort, il s'agit de son avant-dernier opéra. Dans la forme, La Flûte Enchantée se découpe en deux actes. Cet opéra est surtout connu du grand public pour le célèbre chant de la Reine de la Nuit interprété par une voix de soprano colorato. L'histoire se déroule dans un monde imaginaire. Le prince Tamino est chargé par la Reine de la Nuit de sauver sa fille Pamina, qui est retenue prisonnière. Tamino reçoit une flûte enchantée pour l'aider dans sa quête. La Reine de la Nuit se révèle être la véritable antagoniste de la pièce. Nous remarquons la présence d'influences diverses dans l'écriture des œuvres de Mozart. Dans le deuxième acte de son œuvre, le compositeur rend hommage à son prédécesseur Jean-Sébastien Bach en reprenant un de ses airs. Adepte de la franc-maçonnerie, l'opéra La Flûte Enchantée comprend de nombreux éléments liés à cette organisation. On retrouve de nombreux symboles maçonniques dissimulés ainsi que des thèmes empruntés au rite d'initiation à la franc-maçonnerie. Dès sa première représentation, l'opéra fut couronné de succès. Cet opéra est le premier qui sort des cadres italiens du compositeur. Mozart s'initie ainsi à une culture musicale plus germanique. Son œuvre la plus connue est sans doute son Requiem, cependant Mozart ne l'a en réalité pas entièrement composé. En juillet 1791, le musicien reçut la commande de cette œuvre pour le comte de Valsec. Celui-ci entama la composition de l'œuvre dès la réception des premiers paiements. Son extrait le plus connu, Lacrimosa, ne fut par exemple pas composé par le musicien. Mozart n'eut le temps de réaliser que l'introït et le Kyrie, des éléments indispensables pour un requiem. Pourtant, le reste de l'œuvre semble avoir été écrit de la même main de l'artiste. Cette ressemblance provient du fait que ce sont les élèves du compositeur qui ont repris l'écriture de l'œuvre après la mort de ce dernier, sur la demande de sa femme. Celui qui œuvra le plus à la finalisation du Requiem fut Franz Xaver Süssmayer. Son autre élève, Joseph Eibler, travailla également sur cette commande qui devait être achevée. Nous trouvons dans l'œuvre un orchestre symphonique, mais en absence des vents, hormis un corps de basset. Pour les voix, l'habituel quatuor soprano, alto, ténor et basse s'ajoute à la composition orchestrale. Le Requiem fut finalement terminé par les deux élèves et envoyé au comte de Valsec. Celui-ci ne releva pas le changement de compositeur. Il apprécia beaucoup l'œuvre. Malgré la complexité de sa réalisation, le Requiem reçut une très grande popularité. Il fut notamment la première œuvre de Mozart à être imprimée. Sa popularité et son succès ne viennent en revanche pas seulement de sa qualité musicale. Les légendes autour de la mort du compositeur attirent l'intérêt et la curiosité du grand public. Tout un mythe se crée autour du fameux Requiem. Certains voient dans le Requiem, notamment sa famille, une conversion. Cependant, cela peut aussi s'expliquer par le fait que Mozart était un adepte de la franc-maçonnerie et que le nouveau roi en place, Léopold II, n'appréciait pas la société secrète. Même les spécialistes contemporains apportent des interprétations très différentes sur cette œuvre. Nous pourrons noter l'opposition entre la messe et l'opéra qui fait écho à l'opposition entre la religion et la franc-maçonnerie. Pour certains, le Requiem fait écho aux interrogations de Mozart sur l'idée de la mort. Le compositeur aurait en réalité utilisé la musique pour répondre à ses angoisses.
Aujourd'hui encore, Mozart est reconnu comme l'un des plus grands compositeurs de musique savante, et ce parmi toutes les tranches de la population. De la sonate à l'opéra, Mozart excellait dans tous les genres musicaux savants, la musique populaire n'étant pas soumise à la composition. Ses éminents successeurs, tels que Beethoven ou Wagner, s'inspirèrent de ses œuvres. Mozart fut donc une source d'inspiration pour de nombreux compositeurs après lui, laissant derrière lui un héritage musical impressionnant. Les représentations des œuvres de Mozart sont toujours d'actualité, en témoigne le concert du Requiem ayant eu lieu à l'église Saint-Sulpice à Paris le 31 décembre 2021.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente. Je suis Alexis Simon, étudiant en licence 3 d'histoire. Dans le cadre du projet tutoré dirigé par Madame Migani et Monsieur Gognot, j'ai réalisé une vidéo ayant pour titre « Juno Beach, le jour le plus long des Canadiens ». Ce travail est un documentaire historique qui ne cherche pas à vulgariser mais à présenter de manière assez précise le déroulé du 6 juin 1944 pour les forces canadiennes. Vous serez donc transporté avec les soldats canadiens pour découvrir cette journée aussi mythique qu'historique. À travers des images d'archives, des cartes et des photos du champ de bataille d'aujourd'hui, j'ai essayé de combiner pédagogie et précision historique avec un déroulé heure par heure, entrecoupé de témoignages de vétérans, pour terminer sur les enjeux historiographiques et mémoriels du débarquement canadien. En résumé, je présente le déroulé de la journée. Au petit matin du 6 juin 1944, les forces canadiennes, dans leurs embarcations, se dirigent vers leur secteur de débarquement, la plage de Juno Beach. À 7h50, les forces canadiennes prennent pied sur le sol de France. Mais malheureusement pour elles, les Allemands sont organisés et défendent avec acharnement leur position. Après l'intervention des chars et d'âpres combats, les Canadiens finissent par percer le mur de l'Atlantique pour commencer leur avance à travers le bocage normand. Chaque village sur la route se révélera être un obstacle parfois périlleux à franchir. Et finalement, les Canadiens, malgré une bonne progression, n'arriveront pas à atteindre les objectifs du jour J. Après la présentation événementielle de la journée, j'interroge le sujet sur les problèmes historiographiques que j'ai rencontrés dans mes recherches, notamment les interrogations sur les chiffres des pertes, mais aussi sur les enjeux mémoriels mis en place par les Canadiens pour affirmer leur indépendance au sein de l'Empire britannique. Si vous êtes passionné par l'histoire, ou si vous voulez simplement découvrir un passage assez méconnu du débarquement de Normandie, je vous invite donc à aller découvrir ce documentaire aussi complet que passionnant sur la chaîne YouTube du vidéaste Rupert, R-U-P-P-E-E-R-T. Bon visionnage à tous.
Et voilà, ah, folle, folle jeunesse, qu'ils sont inventifs ces étudiants de licence 3 Histoire et archéologie de l'université de Tours. Alors, attention, est-ce que la technique est avec nous? J'allume le micro de mon invité à distance. Invité, es-tu là? Est-ce qu'on t'entend? Je n'ai plus le son de la radio, donc j'imagine que mon invité ne m'entend pas. C'est très embêtant, chers auditeurs. Donc tant pis, le temps de régler ce potentiel problème technique, je vais vous annoncer quand même qu'il s'agit de Jean-Baptiste Appéré de l'ensemble PTIX. Alors peut-être que ton micro est coupé de l'autre côté de l'écran. Voilà donc l'ensemble PTIX qui propose un événement qui s'appelle Easy Listening, pardon pour mon excellent accent. Donc ça commence aujourd'hui et Jean-Baptiste Appéré nous a préparé une playlist. Alors je vais vous envoyer le premier son de la playlist prévue par mon invité que malheureusement nous ne pouvons pas entendre pour le moment. Peut-être qu'il y aura... un miracle à l'issue de cette écoute. Alors nous allons écouter le premier morceau. Il s'agit de Guillaume Connaisson, Disco Toccata, voilà, avec les interprètes Paul Meyer et Xavier Phillips. Nous écoutons tout de suite ce morceau dans la Méridienne et nous essayons de faire apparaître sur les ondes notre invité Jean-Baptiste Appéré de l'ensemble PTIX. Allez, en avant la musique.
Je cause, m'entends plus.
Ah oui.
Ah ah, ça y est, je crois que les lieux sont avec nous. Alors, allô, bonjour Jean-Baptiste Appéré.
Oui, bonjour Mélissa, bonjour Radio Campus.
Voilà, ça y est, te voici sur nos ondes. Alors, en fond sonore, nous écoutons Guillaume Connesson, disco toccata pour clarinette et violoncelle. Alors voilà, c'était une pièce introductive pour parler de cet événement que vous proposez, Ensemble Optix, Easy Listening. Alors, est-ce que tu veux peut-être nous dire un mot déjà de cette pièce sonore? Pourquoi tu as eu envie de nous la faire écouter?
Eh bien, parce que pour moi, elle représente bien ce qu'on va proposer ces 5 jours, c'est-à-dire nous, on est plutôt des musiciens classiques sur des instruments plutôt acoustiques, avec des formules de 2 à 15 musiciens. Mais simplement, notre particularité, c'est qu'on joue de la musique classique écrite aujourd'hui par des compositeurs, des compositrices qui sont vivants et en fait qui s'abreuvent de plein de styles. Donc j'aime bien la disco toccata de Connesson parce que, comme le titre l'indique, voilà, il mélange l'aspect toccata, un peu savant de la musique renaissance ou baroque, et puis avec des rythmes empruntés à la disco un peu old school, mais en tout cas voilà, il tente des mélanges. C'est des contemporains qui tentent des mélanges.
Ah, je crois que tu es en train de bouger ton micro, parce qu'on entend des pchit-pchit là, c'est du coup...
Ah alors... d'accord, je me tiens calme.
Et voilà, alors du coup cet événement, j'ai dit du coup, pardon chers auditeurs, donc cet événement Easy Listening, un autre regard sur les musiques contemporaines, 27 avril au 1er mai 2022, Tours et alentours. Voilà, enfin, il peut avoir lieu, je crois que vous avez dû le reporter pour cause de bêtes à picots.
Ouais, c'est ça, on l'a annulé 2 fois, donc la troisième est la bonne.
La troisième est la bonne, donc ça va consister en quoi? C'est plein d'événements, donc il y a des concerts, mais je crois qu'il y a d'autres choses aussi.
Et oui, il y a surtout d'autres choses, parce qu'en fait, nous, on joue des musiques que personne ne connaît, et on cherche toujours les moyens pour les amener au public qui ne les connaît pas et qui n'a pas forcément d'attrait particulier pour le répertoire contemporain. Donc on varie les formules. Alors il y a des concerts un peu classiques, mais il y en a très peu. Mais on fait des concerts commentés, des concerts ateliers où le public participe. Il y a des temps de rencontre avec les musiciens, avec les créateurs. Il y a des apéro-concerts, il y a des ateliers. Enfin, c'est très varié.
Ah, problème de micro. On t'entend plus, Jean-Baptiste, là. Je crois qu'il y a eu un petit scratch de micro. Alors voilà, donc nous en sommes au public varié. Donc peut-être le temps que le micro revienne, je vais lancer une deuxième pause musicale que tu nous proposes. Alors là, il s'agit de quoi donc? Il s'agit de le Lullaby. Allô, est-ce que tu es de retour? Howard Skempton, voilà, par l'ensemble Optix, le Lullaby. Je lance ça et... peut-être que tu seras de retour dans quelques instants sur nos ondes. Jean-Baptiste Appéré de l'ensemble Optix. Nous vous présentons, chers auditeurs, Easy Listening, donc cet événement sur 4 jours.
Thank you.
Et voilà, c'était Lullaby de Skempton par l'ensemble Ptix. Alors, Jean-Baptiste Appéré, es-tu de retour sur nos ondes?
J'espère, j'espère.
Eh bien oui, on t'entend un peu de loin, mais on t'entend. Alors, ce morceau-là, pourquoi tu as eu envie de nous le faire écouter?
Alors, pour deux aspects. Déjà, pour rappeler que le festival Easy Listening, je ne sais pas comment on peut traduire, peut-être l'écoute simple, l'écoute facile, c'est mettre voilà, à disposition des musiques qu'on pourrait écouter en faisant autre chose, en fait, comme on le faisait avec la pop Easy Listening des années 50-60. Donc, c'est vraiment une musique qui n'a pas d'obstacle pour entrer dedans, assez consonante. Et l'autre chose, la lullaby que j'ai choisie, là, donc la berceuse, c'est que pour nous, c'est important aujourd'hui de se positionner en tant qu'artiste musicien, de raconter quelque chose sur le monde d'aujourd'hui. Et même si le festival avait été imaginé avant la grande cavalcade des deux dernières années, on avait envie voilà, de reposer en fait, un temps long, un temps lent, où en fait, on a le temps de profiter des choses. On a le temps de revenir à des sortes de fondamentaux, des essentiels. Et donc, tout le festival, en fait, est sur cet esprit de rendre honneur à la terre, à la mer, à notre matrie, à ce qui nous constitue, à ce qui est simple, en fait, d'où on vient. Et on essaye voilà, d'être un peu sur cet axe-là aussi.
Alors, Easy Listening, ça commence ce soir, 20h30. À l'atelier du Petit Pré par un atelier concert, le mystère Arvo-Pärt. Alors, est-ce que ça se dit comme ça? Est-ce que tu veux nous en dire plus pour allécher nos auditeurs?
Alors, ça se dit tout à fait comme ça. Donc, Arvo-Pärt, c'est un compositeur estonien qui est encore vivant, qui a 80, presque 90 ans. Et en fait, c'est un des grands, grands maîtres de la musique minimaliste, on va dire, balte, enfin, en tout cas, du nord de l'Europe. Donc, c'est forcément une musique qu'on a entendue un jour ou l'autre. Il y a beaucoup d'œuvres chorales qui ont été dans des films. Il y a vraiment des pièces orchestrales, Tabula Rasa, qui sont généralement assez connues. Parce qu'il a bénéficié un peu du mouvement New Age des années 80 sur le label ECM. Et en fait, le concert de soir, c'est vraiment l'occasion d'entendre ses premières pièces, Fratres, Furalina, que j'imagine beaucoup d'apprentis musiciens ont joué, là, qui nous écoutent. Et l'atelier, ça sera en fait, moi je demanderai aux gens qui seront dans le public de faire un. Comme si on faisait du Arvo-Pärt en direct, donc avec des petites lames, des choses très simples. On va composer en direct un petit morceau à la manière d'Arvo-Pärt pour comprendre ce phénomène dont je ne vous dirai pas trop, qui s'appelle le tintinnabuli.
Ah bon, alors rendez-vous à la Riche, à l'atelier du Petit Pré à 20h30. Alors participation aux frais libres, et d'ailleurs on peut signaler que sur les autres événements dont nous allons parler ensuite, il y a toujours des tarifs quand même... pas cher, hein, c'est accessible. Donc pourquoi vous avez fait ce choix-là en fait, de choses gratuites, participation libre ou de pas cher? Ah. Allô, allô? Zut, je crois qu'il y a à nouveau un tunnel dans lequel est parti mon invité.
C'est bon là, c'est revenu?
Oui, c'est revenu. Alors je disais, oui, Ensemble Ptix, vous militez aussi pour que tout le monde puisse avoir accès à la musique, enfin aux événements. Alors du coup, vous avez fait le choix d'événements gratuits à 5€ à prix libre ou à pas beaucoup plus. Est-ce que tu veux nous dire un mot là-dessus?
Alors déjà, nous on fait le choix vraiment d'avoir des prix tout simplement en dessous de 10€. Voilà, c'est un cap qu'on essaye de... pas dépassé depuis assez longtemps, même si voilà, tout augmente, mais pas nos prix. En fait, on n'est pas sur le dispositif du passeport culturel étudiant, mais il y a soit des prix à 6€, soit des prix libres, et on donne le tarif réduit à les personnes qui le demandent. C'est vraiment voilà, pour que ça ne soit pas du tout un frein pour venir au concert. La deuxième chose, et vraiment, moi, je parle en toute transparence, c'est que pendant les deux dernières années, on a eu en fait des aides sur des fonds de relance, des fonds de soutien. Donc nous, on a eu des enveloppes pour nous aider à continuer notre activité. Et en fait, il se trouve qu'on a été bénéficiaire de certaines subventions qu'aujourd'hui, en fait, on peut mettre dans le festival pour justement, nous, être sur des rémunérations professionnelles, mais à la fois permettre d'être sur des prix très accessibles.
Voilà, donc n'hésitez pas, chers auditeurs, à aller à ces événements. Voilà, vous n'en ressortirez pas ruinés. Si je parle mon français au passage, c'est quand même triste. Alors, jeudi 28, à partir de 18h, on va se diriger vers l'instrumentarium. Donc ça, c'est Place des Halles à Tours. Donc, les leçons du son à 18h. Donc ça, c'est quoi ? Ah, j'entends un grésillement de micro en réponse à ma question. Voilà, donc les leçons du son. Donc apparemment, c'est une conférence avec musiciens incorporés. Donc avant d'en savoir plus, je vous propose d'écouter un nouveau morceau choisi par notre invité. Et nous allons écouter une barcarolle. Voilà, Karine Letiec, ensemble Calliope. On se retrouve tout de suite après cette écoute dans La Méridienne sur Radio Campus Tours.
Et la mer et l'amour ont l'amour pour partage. Et la mer est ta mère et l'amour est ta mère. L'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer, car la mer et l'amour ne sont point sans orage. La mère de l'amour eut la mer pour berceau. Le feu sort de l'amour, sa mère sort de l'eau, mais l'eau contre ce feu ne peut fournir les armes.
Vous venez d'écouter la barcarolle de l'amour, Graciane Finzi, par l'ensemble Calliope. Alors, est-ce que tu es là, Jean-Baptiste Apéry ?
Ça y est.
Voilà, alors, pourquoi cet extrait-là ? Alors là, c'est voix et musique, de quoi il s'agit ?
Alors, déjà, il s'agit de beaucoup de poésie, parce que nous, on aime bien la poésie. On est un peu ancien là-dessus, mais en fait, moi, je tiens, là, pour expliquer, c'est les musiciens qui disent le texte. Et en fait, ce morceau, pour dire qu'on a des invités sur le festival, donc Graciane Finzi, cette compositrice, Christina Megueri, Denis Musée, François Delalande, qui vont être là, en fait, sur les 4-5 jours. Et donc, on va entendre, ils vont parler, ou alors on va entendre leur musique. Mais l'idée, c'est aussi que, voilà, ils soient à disponibilité du public, sur des temps aussi un petit peu plus off, convivial, sur aller boire un café ensemble, pour que vraiment on soit sur une sorte de, je sais pas comment dire, une sorte de consortium de gens d'aujourd'hui qui font de la création contemporaine musicale et qui vont être là pour voir un peu où on en est dans notre situation du métier.
Voilà, donc j'en reviens à jeudi 28 avril, 18h, direction l'instrumentarium Place des Halles pour les leçons du son. Avec justement François Delalande, Camille Guérard au violoncelle et Antoine Moulin à la clarinette. Alors de quoi s'agit-il ?
Alors en fait, il s'agit de dire que depuis 1945, en fait, il y a beaucoup de compositeurs qui ne composent plus avec des notes, comme on pouvait le faire chez Mozart, par exemple, dont on a entendu la chronique tout à l'heure, mais qui composent avec des sons. C'est-à-dire qu'on est vraiment passé dans un autre monde où le sonore est devenu fondamental par rapport aux médias qui existent, que ce soit de diffusion, de reproduction, mais aussi parce que vraiment il y a eu la musique concrète, la musique électroacoustique, la musique de film, et en fait la musique a commencé à être non plus une affaire intellectuelle couchée sur une partition, mais vraiment une affaire sensible. Et il y a vraiment plein de courants et plein de gens qu'ont eu envie de chercher ailleurs que d'écrire des paquets de notes, comme l'ont fait certains. Et donc le son, en fait, dans toutes ses composantes, alors que ça soit la hauteur, le rythme, le volume, mais aussi la granularité, la densité, l'épaisseur, ça devient vraiment un objet du quotidien. Et donc François, il va dresser un petit peu ce parcours-là sur les 50 dernières années, on va dire, que ça soit dans le jazz, musique baroque, musique classique, le rock, où en fait, finalement, ce qui compte, ce n'est pas forcément voilà, les notes, les accords, mais c'est plutôt la puissance sonore qui s'en dégage.
Voilà, donc cette, je sais pas si on peut dire que c'est une, oui, c'est un concert lecture, sera suivi toujours au même endroit, le même jour, à 19h30, par une dégustation musicale. Alors, c'est quoi?
Bah, en fait, des bons vivants. On fait de la musique vivante, mais on est des bons vivants. Et en fait, c'est une expérience qu'on propose au public. Alors, vous avez peut-être vu, partagé des moments où on tente des associations entre vin et musique. Alors, est-ce que le jazz, c'est plutôt sur un chardonnay? Est-ce que le rouge, c'est plutôt un bon pinot noir et qui va plutôt avec, de la funk? En fait, là, le propos est un tout petit peu différent. C'est qu'on va commencer par mettre les gens en condition, en les faisant goûter un fromage qui est sélectionné par Rodolphe Lemeunier, et puis un vin qui a été...
Ah, mince, on t'a perdu au moment du vin. Là, il y a ton micro qui s'est éteint, Jean-Baptiste Appéré. Alors,
est-ce que c'est mieux? Oui, c'est
oui, voilà. Donc, le vin, voilà. Du coup, à consommer avec modération, évidemment.
Bien sûr. Et il y aura des jus de fruits, pour ceux qui ne boivent pas de vin, je précise. Donc, le vin qu'on a choisi avec la cave par 3. Donc, on est vraiment dans un périmètre de 100 mètres autour de l'instrumentarium. Et en fait, voilà, on met les gens en condition. On déguste un fromage, on boit une boisson. Et... qu'est-ce que ça provoque dans leur écoute? Est-ce que ça dirige leur écoute? Est-ce qu'ils vont découvrir la pièce autrement? Parce qu'ils vont être sur quelque chose de moelleux, quelque chose de plutôt vif. Voilà, c'est vraiment une expérience qu'on leur propose. Donc on n'en sortira pas ivre, mais en tout cas plus riche d'une expérience musicale.
Alors, est-ce à dire que la musique a un goût de fromage ou une saveur capiteuse? Mince.
En fait, par exemple, la berceuse qu'on a entendue tout à l'heure, là, de Skempton, nous, on va l'associer avec un fromage plutôt de chèvre et puis un blanc, on va dire, un peu sec, enfin sec, demi-sec. Et est-ce que du coup, voilà, on a une acuité auditive qui est plus centrée justement sur quelque chose d'un petit peu de l'acidité, sur quelque chose d'une longueur. Voilà, c'est vraiment un test qu'on propose. Après, ce qui est cool, c'est que... On va vivre un moment sympa à déguster, à manger puis à entendre. Donc voilà, petite expérience.
Voilà, donc venez développer votre écoute fromagistique demain 19h30 à l'instrumentarium Place des Halles à Tours. Alors attention, c'est pas grand l'instrumentarium, donc peut-être qu'il est vivement conseillé de réserver.
Oui, c'est toujours mieux. En fait, vous pouvez aller sur le site de l'ensemble, donc Ensemble Ptix. Avec un yptyx.com, vous aurez accès, il y a une billetterie, il y a de la réservation via Hello Asso. Après, voilà, je pense qu'on va être sur une capacité de 30-40 personnes. Pour l'instant, on a 10 réservations, donc a priori, on peut y arriver sans réserver.
Ah bon, chic, bonne nouvelle. Eh bien, nous allons écouter une nouvelle pause musicale que tu nous proposes. Alors là, il est question de jeu d'eau place Notre-Dame. Voilà, peut-être tu veux nous en dire un mot avant ou après écoute?
Alors peut-être avant, parce qu'on peut écouter vraiment que le début, la première minute, les deux premières minutes. Et en fait, c'est justement sur un autre type de composition, on va dire, puisque c'est du field recording, c'est-à-dire on va sur un endroit, on pose un micro et on choisit qu'on va enregistrer ce moment-là. Voilà, nous, on est vraiment des descendants de Cage. Et pour nous, la musique, elle est partout. Et là, justement, dans ce son qui a été enregistré à Villefranche-sur-Ouergue, le compositeur a décidé de garder ce moment-là parce que pour lui, il y avait beaucoup de musique.
On y va là. s'en va. Peu importe. Allez, on y va. Allez. Salut.
Voilà, auditeurs, auditrices, Villefranche de Rouergue, Jedeau, place Notre-Dame dans ton poste. Alors, j'en reviens, Jean-Baptiste Appéré, à cette programmation Easy Listening. Donc, on continue vendredi 29 avril. Donc là, on va vers un atelier Wikipédia Égalité avec le Fun Lab à MAM. Alors, c'est quoi ?
Alors, en fait, c'est la continuité de notre action autour de l'égalité, de la parité, de la mixité homme-femme, mais de manière plus générale sur, on va dire, une lutte contre toutes les discriminations. Donc, nous, depuis 2-3 ans, on met en valeur beaucoup de compositrices, surtout. Et là, l'atelier, c'est en fait Catherine Lenoble, en partenariat avec HF, dont on fait partie, HF Val-de-Loire, Centre Val-de-Loire, qui, en fait, propose de s'initier vraiment informatiquement sur qu'est-ce que c'est qu'élaborer une page Wikipédia et du coup de créer des pages sur des personnalités féminines de tous les horizons, d'ailleurs pas que artistiques, pour rendre plus visible voilà, le travail de toutes ces égarées ou ces refusées de l'histoire. Donc là, on fera une page, on constituera une page sur Christina Megueri, qui est cette compositrice hongroise qu'on reçoit. Donc Catherine, elle va voilà, présenter un peu les valeurs, les repères autour de Wikipédia. On échangera sur des contenus et puis on commencera à rentrer un peu les infos, à voir comment ça se passe. L'idée, c'est que les gens puissent sortir de l'atelier après et puis puissent eux-mêmes réaliser des pages Wikipédia.
Voilà, dans la mesure du possible, se munir de son ordinateur portable gratuit sur inscription. Hein. Je lis ça parce que c'est précisé, alors peut-être que ça a une importance.
Oui, c'est mieux de prévenir pour qu'on sache combien de postes on met en place.
Voilà, et donc, même jour, 18h, c'est rencontre avec Denis Musée. Voilà, donc ça, ce sera à la chapelle Saint-Libert, le son du vivant.
Donc, Denis Musée, dont on vient d'entendre le field recording, et qui vient présenter son ouvrage. Donc voilà, lui, il s'intéresse à la bioacoustique, au phénomène sonore d'aujourd'hui, à la biodiversité des sons, comment on peut les sauvegarder, sachant que depuis 2 ans, voilà, il y a eu des moments où on avait plus de voitures, on avait des oiseaux différents qui sont revenus dans les villes, et même dans les campagnes, les paysages sonores ont changé. Voilà, il essaye de poser un peu des réflexions, des constats sur qu'est-ce que le monde sonore d'aujourd'hui et comment le préserver. Donc c'est ce qu'il appelle l'écologie.
Et alors, la journée se termine par un concert voilà, donc avec Ensemble Ptix et des invités.
Ouais, c'est le Chœur et la Neveva, que je pense les Tourangeaux connaissent un petit peu, dirigé par Isabelle Faes. Donc bah, ça c'est juste le concert cadeau en fait, parce que on va mélanger de l'instrumental, du chant, du chœur, dans le super acoustique de Saint-Libert. Donc c'est un peu le concert un peu plus classique, mais avec des musiques vraiment, vraiment magnifiques, et je pense qu'ils sont importantes d'écouter en concert plus que sur disque.
Voilà, et d'ailleurs, nous allons écouter une nouvelle extrait sonore que tu nous proposes. C'est voilà, donc là, c'est l'ensemble Ptix qui joue et c'est Terry Riley Insi. Voilà. Tu veux dire un mot avant qu'on écoute ou...
Eh ben pareil, c'est un morceau qui est très long, donc on pourra le couper en cours. Mais ça me permettra de parler de la dernière journée, enfin le dernier week-end du festival, où on gagne en intensité. Thank you.
Voilà, donc nous venons d'écouter un extrait, Jean-Baptiste Appéré. Et donc voilà, ensuite, le programme se poursuit le 30 avril. Alors, tu nous dis, ça gagne en intensité. Qu'est-ce que tu veux nous en dire?
Alors, en fait, déjà, on va être sur des journées plus remplies, sur le samedi, dimanche. Et on gagne en intensité, dans le sens où on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet, avec le samedi, beaucoup de rencontres sur différents thèmes, l'éducation musicale, sur la création aujourd'hui, sur le sonore aujourd'hui. Donc une grande journée à Saint-Libert, mais aussi le matin à la librairie L'Oiseau Vigie à 11h à Saint-Pierre-des-Corps, donc pour discuter de l'éducation musicale. Et puis le dimanche, donc ça sera le final, alors c'est le 1er mai, nous on est assez branchés sur les symboles. Et on s'est dit, qu'est-ce que c'est que le 1er mai? Qu'est-ce que ça raconte? Donc déjà, faire travailler des musiciens le 1er mai, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on ne les laisse pas aller manifester? Mais d'un autre côté, c'est une sorte de renouveau le 1er mai. Donc on a eu envie d'une journée un peu spéciale. Et dans un lieu spécial qui est la Grange Babel, qui est l'atelier du sculpteur Jean Vindras. Donc c'est à Saint-Pierre-des-Corps, à côté du rond-point avec les crayons de couleur et la mouette, pour localiser. Et en fait, la grange, elle a deux particularités. C'est déjà que c'est une des seules granges maraîchères qui a été conservée après les bombardements de la Deuxième Guerre. Donc, c'est une très, très belle grange, bien restaurée et aujourd'hui qui est vraiment équipée pour recevoir des spectacles. Et à l'extérieur, il y a une tour construite par Jean Vindras qui fait 9 mètres de haut, une tour de Babel. Et nous, c'est un lieu qu'on a investi plusieurs fois depuis quelques années parce qu'en fait, il nous raconte une histoire, une histoire un peu de l'humanité. Jean, il a voulu vraiment que ça soit un lieu de toutes les cultures, toutes les langues, l'être humain sur Terre et pas forcément dans les planètes ou dans des grandes aspirations dans l'au-delà. Donc la journée, on va avoir un concert lecture à 11h, une projection d'un film documentaire sur les événements en Ukraine de l'Euromaidan en 2013, qui tourne autour de la musique. C'est un documentaire assez fort. Et puis on terminera à 16h avec vraiment un spectacle dans tous les espaces de la Grange Babel, où en fait le public pourra se promener, pourra venir vraiment autour des musiciens, et on jouera des pièces assez hypnotiques, comme le INSEE de Terry Riley. En fait, c'est pas de la musique de notes, c'est de la musique limite de transe, où il faut être dedans, il faut se laisser embarquer pendant 55 minutes. C'est très répétitif, mais l'idée, c'est vraiment de conduire les auditeurs dans un autre espace. Voilà.
Et alors, pour mettre en place un tel événement, est-ce que vous avez eu des partenariats particuliers, des soutiens quelconques?
Alors, on remercie Radio Campus de nous offrir du temps d'antenne.
Oui, bon, c'est comme...
À part ça, alors je ne vais pas dire les gens qui ne nous ont pas soutenus, parce que s'ils écoutent, ils sauront qu'ils ne nous ont pas soutenus, et c'est dommage.
Oui, voilà, non, mieux vaut dire ceux qui ont soutenu.
Comment ?
Mieux vaut parler de ceux qui ont soutenu.
Exactement. Donc nous, on a la chance d'être accompagnés par la DRAC, avec qui, en fait, on s'entend bien, on est à peu près sur les mêmes longueurs d'onde, et ils encouragent notre travail sans demander à ce qu'il obéisse à un cahier des charges qui serait... pas en phase avec nos convictions, donc c'est très bien. La SACEM pour le répertoire vivant est avec nous, la Maison de la Musique Contemporaine, et puis le département, on a plutôt un bon soutien du conseil départemental depuis 5-6 ans, parce que là on est sur la métropole, mais en fait on a des actions sur tout le territoire, tout le temps, et on va au contact des gens sur des lieux pas forcément pour. On a vraiment ces quatre gros partenaires, puis après, eux, c'est financier surtout. Puis après, on a plein de gens qui nous ont filé un coup de main, du matériel, des lieux pour pouvoir préparer cet événement.
Et d'ailleurs, si d'aventure, parmi nos auditeurs, quelqu'un dispose d'un lieu où il aimerait inviter l'ensemble Ptix pour une petite forme musicale ou une grande, selon la disposition des lieux, comment ça se passe? Est-ce que c'est possible?
Alors, au contraire, c'est vraiment possible. Que ce soit une sorte de concert chez l'habitant ou une balade musicale dans un petit endroit. Nous, on répond vraiment à toutes les demandes, toutes les envies. Financièrement, on trouve toujours des façons de fonctionner. Donc, c'est jamais un frein. Et ce qu'on aime, en fait, c'est c'est vraiment provoquer la curiosité avec des groupes constitués, des groupes d'amateurs, des groupes de copains, des groupes localisés sur différents endroits de Touraine. Et puis, on vient à un, deux, trois, des fois plus. Et puis, soit c'est vraiment juste du plaisir musical, soit moi, je peux être là aussi pour donner des clés. Donc, il y a plein de formules. Le plus simple, c'est vraiment nous envoyer le petit mail très simple en disant « j'ai envie de vous accueillir ». C'est contact@ensembleptix.com. Et puis, on trouvera une manière de le faire.
Est-ce que Ptix est un service public? Zut, le micro coupe à ce moment-là, c'est vraiment pas de chance.
J'essaye de le relancer, oui.
Voilà.
On va répondre à cette question. Je ne sais pas si on est un service public. On n'est pas un service public comme la Poste, on va dire. Par contre, on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais en tout cas, nous, voilà, on touche des fonds publics. Donc, par rapport à ça, on a une action qui est vraiment militante et assez remplie pour amener des musiques de création vers le tout public. Donc, on est plutôt une délégation, on va dire, de service public. Et on le fait avec plaisir. Voilà.
Merci Jean-Baptiste Appéré. Donc, on peut retrouver toutes ces informations, programmation de l'événement Easy Listening sur votre site ensembleptix.com, c'est ça?
C'est ça, avec voilà. Un Y.
Et cette émission va se terminer avec ton dernier choix musical. Alors, c'était le choix surprise. Qu'est-ce qu'on écoute?
Alors, on va écouter une pièce de Christina Meghieri. Donc, on est en train de travailler avec elle là sur Paris, donc c'est pour ça que je suis à distance. En fait, Christina, c'est vraiment le coup de cœur. On a écouté un morceau sur Internet, on l'a contactée, ça fait 2 ans. Et puis, on a décidé de la faire venir. C'est une très, très belle écriture. C'est vraiment, pour moi, c'est intelligent, dans le sens très bien composé, mais c'est très palpable, ça raconte une histoire. Les interprètes qui chantent là sont vraiment super aussi. Donc tout ça, c'est des pièces qu'on entendra pendant le festival. Et je voulais finir, c'est une berceuse aussi.
Voilà, donc on se quitte en écoutant cet artiste. Merci Jean-Baptiste Appéré de l'ensemble Ptix d'être venu dans cette émission pour nous présenter Easy Listening. Donc on le rappelle une dernière
fois. Merci beaucoup à vous.
Voilà, un événement qui dure jusqu'au 1er mai et toute la programmation est à retrouver sur le site ensembleptix.com. Il me reste à vous souhaiter la meilleure des journées possibles à l'écoute de nos excellents programmes. Cette émission sera réécoutée aujourd'hui même à 17h en podcast sur notre site radiocampustour.com. Et je rappelle que nous diffusons également sur nos ondes le Cercle des musiques disparues, le beau podcast de l'ensemble Ptix. Bonne journée à tous et à toutes.